Eh bien, bonjour. Nous, les chrétiens, nous fêtons la vie, particulièrement dans ce week-end particulièrement sombre. C'est un plaisir de voir vos visages être illuminés par la vie de Jésus. Nous avons fait le bon choix. Amen. Et nous voici aujourd'hui à notre troisième prédication sur les livres poétiques. Nous avons déjà vu le livre de l'Ecclésiaste et celui de Job. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le livre des Proverbes. Je pense que vous l'avez un petit peu compris avec l'introduction de Raphaëlle. Et vous verrez que l'ordre des prédications que nous avons n'est pas anodin. Ce n'est pas sans raison que nous avons commencé par l'Ecclésiaste et par Job. Alors, le livre des Proverbes est un recueil de proverbes, écrit par trois auteurs, Salomon dans les 29 premiers chapitres, et puis deux autres personnes, Agour et un roi, qui s'appelle Lemuel, pour les deux derniers. Le fil rouge des prédications qui relie ces cinq livres poétiques, c'est le fil rouge que nous avons choisi, c'est « Sagesse pour ma vie sous le soleil ». Et il est vrai que durant tout le livre des Proverbes, la sagesse va être à la première place de chaque chapitre. La recherche de la sagesse était assez répandue du temps de Salomon, sagesse qui consistait dans l'art de profiter de ses connaissances pour les appliquer dans la vie courante, pour être enfin épanoui dans notre vie. Et ses proverbes, ses maximes, ses dictons touchaient ainsi tous les domaines de la vie. Et dans le livre des Proverbes, donc, que Salomon a écrit, le découpage est assez simple. D'abord, vous avez une introduction. Ensuite, le discours d'un père à son fils, c'est les 9 premiers chapitres. Puis, des proverbes généraux qui concernent la vie morale, les chapitres 10 à 29. Et puis enfin, deux autres auteurs, je les ai cités, Agour, qui au chapitre 30 reconnaît le manque de sagesse qu'il a, et le roi Lemuel, qui au chapitre 31 nous donne les paroles de sagesse que sa mère lui a enseignées et qui dressera pour finir le portrait de la femme de valeur. Ainsi, les proverbes commencent par un enseignement d'un père à son fils et se terminent par l'enseignement d'une mère à son fils. Et dans ce recueil, Salomon nous invite immédiatement à prendre conscience du but de cet écrit. Souvenez-vous, il a déjà écrit l'Ecclésiaste, il va écrire un deuxième livre qui est ce livre des Proverbes. Et voici ce qu'il est dit dans les 4 premiers versets de ce chapitre 1er. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture, pour donner au simple de la prudence, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Donc, si vous avez été attentif depuis le début du culte, c'était le verset d'introduction que Raphaël nous a lu. Ça veut dire qu'on a bien compris maintenant que le livre des Proverbes servait à notre instruction et à recevoir la sagesse. C'est vraiment la base de cet ouvrage, de ce livre, c'est connaître la sagesse. Souvenez-vous, dans votre mémoire biblique, le moment où Dieu est apparu en songe à Salomon et lui a dit, en 1 roi 3, le verset 5, « Demande ce que tu veux. » Je pense que si Dieu devait nous dire ceci, il y a notre cœur qui bouillonnerait, notre réflexion qui serait à 100 à l'heure en disant « Mais qu'est-ce que je pourrais bien demander à Dieu ?» Et puis Salomon, lui, ne lui demande à rien d'autre qu'un cœur attentif pour bien gouverner son peuple. En d'autres termes, il lui demandait de la sagesse pour gouverner son peuple qui était fort nombreux. Et Dieu était touché par cette réponse humble. Effectivement, et c'est le verset qui suit, il nous est dit qu'il lui donna un cœur sage et intelligent, mais aussi la gloire et la richesse. Parce que nous, on aurait peut-être commencé par la gloire et la richesse, et on aurait peut-être terminé par la sagesse. Eh bien, Salomon était déjà sage dans ses propos. Et deux chapitres plus loin, la Bible revient sur ce moment important. Voici ce qu'elle dit. Alors, dans certaines Bibles, c'est dans 1 Roi 5, verset 9, mais les chapitres sont un petit peu différents selon les versions. Et vous avez peut-être 4, versets 29 à 34, qui dit ceci. « Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances étendues, comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il a prononcé 3000 proverbes, et ces chants sont au nombre de 105. La Bible en a retenu particulièrement deux, les psaumes 72 et 127, qui dans les 150 psaumes du livre des psaumes appartiennent à Salomon. Je continue. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort du mur. Il a aussi beaucoup parlé sur les bêtes, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les poissons. Bref, quelqu'un qui avait une connaissance élargie en tout. Et puis de ces 3000 proverbes, il y en a environ 500 que Salomon nous a laissés dans ce livre. Il y en aura d'autres qu'il aura laissés dans le livre d'Ecclésiaste que nous pouvons lire si nous relisons ce livre. Et on comprend bien que Salomon n'a pas écrit un livre pour acquérir la gloire ou la richesse que Dieu lui a donnée en disant « Mon fils, sache un petit peu comment est-ce qu'on peut être glorieux, comment est-ce qu'on peut être riche. » Non, non, il désire écrire un livre pour d'abord enseigner à son fils en tout premier lieu comment acquérir la sagesse. Et le verset 7 du premier chapitre nous donne le but de ce livre, telle une clé qui nous permettra de vivre en harmonie avec Dieu. Et il est dit ceci, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. » Dans les premiers chapitres, dans les premiers versets, on a vu que Salomon disait que ce qui était important, c'était la sagesse et la connaissance, l'instruction. Ici, on comprend la sagesse. Et puis, Salomon nous dit aussi que ce qui est essentiel dans notre vie, c'est aussi la crainte de l'Éternel. Non pas une peur panique de Dieu, mais une révérence, un respect dans ses commandements, une obéissance à ce qu'il nous demande. Alors ça signifie bien sûr qu'il faut avoir du bon sens. Et d'ailleurs, le livre des Proverbes en est rempli de bon sens. Mais ce bon sens ne sert à rien si notre vie n'est pas en harmonie avec celle de Dieu. En d'autres termes, si je n'ai pas la crainte de Dieu, la sagesse ne me servira de rien. Il faut les deux, la sagesse et la crainte de l'Éternel. Et c'est ce que Salomon désire enseigner à son fils, et il va le faire dans les 9 premiers chapitres. Quant à la sagesse, Salomon parlera encore aussi à son fils, au Proverbe 4, le verset 7, qui dit ceci, « Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. » En d'autres termes, mon fils, tu veux être sage? Alors, apprends et cesse de croire que tu sais tout. Je trouve que c'est bien pour nous aussi. Voici le commandement de la sagesse, acquiert la sagesse. Et c'est avec ces deux clés que la lecture des chapitres 10 à 29 est possible. En effet, dans ces 20 chapitres, qui vont être le corps le livre des proverbes, Salomon va donner toute une série de proverbes, de dictons, tirés de la vie de tous les jours. Alors, on peut y lire des proverbes, des dictons, des maximes sur le mariage, sur l'amour, sur la générosité, sur notre caractère, sur la sexualité, sur la justice, sur l'alcool et tous ses problèmes, sur la famille et tous ses problèmes, sur la justice, sur l'immoralité. Il y a tellement, tellement de choses et on voit vraiment que Dieu a donné à Salomon une très grande intelligence pour parler de toutes ces choses. Et en fait, le livre des Proverbes, c'est un ouvrage de référence qu'il faut consulter toute sa vie, chaque jour, pour vivre de façon harmonieuse avec Dieu. Mais le problème, c'est que la perception des choses va changer avec le temps. Ce qui est valable hier en matière de moralité ne sera pas forcément valable aujourd'hui ou demain. On en voit clairement les dégâts de notre société au niveau de la moralité. Par contre, les proverbes de Salomon sont une réflexion sur la vie valable non seulement pour la génération présente, mais aussi qui est empreinte par la vie de génération passée et qui se porte sur les générations futures. En fait, le livre des Proverbes est une invitation de Dieu à s'appuyer sur des savoirs et des savoir-faire acquis par le peuple de Dieu au fil des générations, et non de bons conseils que l'on pourrait donner à celui ou à celle qui en aurait besoin. En fait, ce qui est paradoxal et ce qui rend le livre des Proverbes différent de tous les autres, c'est que le livre des Proverbes, c'est un livre pour nous-mêmes, pour moi, pas pour vous. Ce qui veut dire que quand je vais lire le livre des Proverbes, eh bien, je vais me concentrer sur ma vie et non pas sur celle des autres. Parce que vous savez, j'aurais tellement de choses à dire sur vos vies que j'en oublierais de considérer ma propre vie. Et le livre des Proverbes, c'est comme un miroir que l'on retrouve dans Jacques, dans l'épître de Jacques, qui me montre qui je suis et qui me montre si je suis sage et qui m'invite à découvrir cette sagesse. Et parfois, on a utilisé, on le verra tout à l'heure, le livre des Proverbes comme une batte de baseball pour frapper les autres chrétiens. Non, le livre des Proverbes, c'est pour nous-mêmes. Et ce qui est difficile de comprendre pour un lecteur non averti, en plus, c'est que le livre des Proverbes n'est pas un livre de promesses indéfectibles, ni un livre qui est rempli de formules de réussite, ni même de prophéties qu'on pourrait donner ou recevoir ou s'autoproclamer. Les proverbes donnés par Salomon ne sont, et c'est là où tout le sens du livre des proverbes trouve son sens justement, c'est que les proverbes donnés par Salomon ne sont que des lignes générales qui ont beaucoup de probabilités de se produire, mais pas toujours. Alors oui, c'est vrai, le fait de craindre l'Éternel et d'être rempli de sagesse conduit souvent la personne à la paix, à la réussite, à une vie en harmonie avec Dieu. Alors qu'une personne orgueilleuse, athée, égoïste, remplie de folie, la conduirait plutôt vers la ruine et la colère de Dieu. Et ces cas de figure sont souvent la réalité, mais pas toujours. En fait, la spécificité du livre des Proverbes, c'est qu'il souligne ce qui peut arriver d'une manière générale et il ne prend pas compte des exceptions, qui sont pourtant tellement nombreuses dans ma vie et certainement aussi dans votre vie. Et on peut être un petit peu mal à l'aise avec certains proverbes qui, bien que dans la Bible, bien que parole de Dieu, nous donnent un drôle de goût de notre bouche et de notre cœur. Je vous donne un exemple. Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant dès sa jeunesse. Avec le temps, il ne s'en détournera pas. Il y a beaucoup de probabilités que l'enfant continue à grandir dans la foi, mais ce n'est pas toujours le cas. Il arrive parfois à notre grande âme que nos enfants se détournent de la vie chrétienne. Et non seulement cela nous affecte et nous déchire le cœur, mais il y a pire. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas s'empêcher de nous citer ce verset en nous faisant comprendre qu'il y a un problème majeur dans l'éducation de nos enfants et que l'erreur, la faute, elle est sur nous. Quelle horreur! Quelle méchanceté de pharisiens hypocrites! Que de cœurs meurtris inutilement face à de tels comportements qui sont honteux. Et je parle d'un fils qui pourrait s'éloigner, ou d'une fille qui pourrait s'éloigner de la foi, mais vous avez certainement chacun de vous sur votre cœur des souffrances face à des versets que des personnes bien intentionnées vous ont assénés en vous disant de parler Dieu avec le livre des Proverbes ou un autre livre et qui ont meurtri votre cœur. Je crois qu'on doit recevoir le pardon de ces choses-là. Et en tant que pasteur qui aime expliquer la Bible, je me rends compte que parfois on l'a utilisée avec une main assassine. Et puis, ce n'est pas simplement des chrétiens, mais c'est peut-être aussi des pasteurs qui vous l'ont dit, qui ont cassé votre joie, qui ont arrêté votre enthousiasme. Et même si ça peut paraître un petit peu particulier, mais j'aimerais que vous entendiez que, en tant que pasteur, j'aimerais vous demander pardon pour tous ces gens qui auraient dû se taire, pour tous ces gens qui auraient dû apprendre à grandir, pour tous ces gens qui n'étaient pas humbles, pour tous ces gens qui n'avaient pas la sagesse de Dieu et qui croyaient détenir la vérité dans leur bouche. Pardon pour ces hommes, ces femmes qui, avec des versets bibliques, vous ont rendu encore plus douloureux les difficultés que vous pouviez vivre. Et c'est vrai que c'est important. Mais encore une fois, et c'est là où on pourrait se tromper, les proverbes ne sont pas des promesses. C'est des principes généraux. Généraux. Puis vous vous dites, mais il y a tellement de choses qui ne collent pas avec ces versets. Il y a des exceptions quand même. Ma vie est une exception. Alors où est-ce qu'elles sont ces exceptions? Eh bien, pas dans le livre des Proverbes. Parce que le livre des Proverbes, c'est que des généralités. Mais dans les deux autres livres de sagesse, Job et l'Ecclésiaste. Ceux qui ont déjà été prêchés ces quelques semaines passées par notre pasteur Luc. Parlons de Job. Job était intègre en tout. Et pourtant, il a eu les pires épreuves qu'un homme puisse avoir. Alors imaginez un chrétien bien pensant lui citer Proverbes 12, 21. Je crois qu'on était un petit peu trop vite là, bien non ? Aucune calamité n'arrivera au juste, mais les méchants seront comblés de maux. Allez dire ça à Job. Eh bien, moi, je n'aimerais pas être celui qui le lui dit, hein. Parce que je m'en serais mordu les doigts longtemps. Job était un homme intègre. Alors on pourrait dire, mais le livre des Proverbes, la parole de Dieu dit « Aucune calamité n'arrive au juste. Donc, il y a un péché caché dans ta vie. Et aux yeux de Dieu, tu es un méchant. » Mais non, pauvre Job. Le livre de Job est clairement une exception aux principes généraux des Proverbes. Oui, c'est vrai. Aucune calamité n'arrive au juste, c'est d'une façon générale, il y a beaucoup de probabilités pour que cela arrive, mais ce n'est pas toujours le cas. Et l'exemple de Job, qui est le deuxième livre de la sagesse, en est un exemple essentiel. Parlons maintenant de l'Ecclésiaste, et souvenez-vous, l'Ecclésiaste, c'était Salomon lui-même, donc il était un petit peu, vous savez, d'un côté, toute la partie générale, puis de l'autre côté, toutes les exceptions. Salomon dira que celui qui fait le bien comme celui qui fait le mal, de toute façon, ils vont mourir tous les deux. Donc ça ne sert à rien vraiment à faire le bien, ça ne sert à rien vraiment à ne pas faire le mal, parce que finalement, notre finalité, c'est la tombe. Vanité des vanités, tout est vanité. Et si je lis, par exemple, le livre de l'Ecclésiaste, j'ai pris en français courant parce que c'était plus parlant. Un imbécile reçoit parfois des hautes fonctions alors que des gens de valeur sont maintenus à des postes inférieurs. J'ai vu des esclaves aller à cheval, on pourrait dire aujourd'hui rouler en Mercedes, ou et les hommes de haut rang allaient à pied comme des esclaves. Comme si le monde était à l'envers. C'est l'Ecclésiaste qui dit, c'est le même Salomon que ce même personnage bien-pensant de tout à l'heure pourrait dire en Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Alors, ce n'est pas toujours vrai pour cette personne de valeur qui, parce qu'elle est chrétienne, ne peut pas forcément toujours monter dans la hiérarchie de son entreprise et est peut-être mobée par le personnel ou les cadres. Que de souffrance, que de chagrin. Si je vous disais aujourd'hui, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Qui pourrait dire, moi j'ai pas de chagrin dans ma vie parce que Dieu me bénit. Mais personne, on a des chagrins. C'est comme quand Jean dit dans le Nouveau Testament, celui qui aime Dieu ne pêche pas. Est-ce que j'aime Dieu? Oui. Est-ce que je pêche? Oui. Ben, je ne comprends pas ce verset, Seigneur. Donc je ne t'aime pas, mais si je t'aime. Mais si tu m'aimais, tu ne pêcherais pas. Mais je... Voilà, on est exactement dans le livre des Proverbes. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de pouvoir vraiment mettre ensemble toute la parole de Dieu et puis pas la découper comme un morceau de saucisson pour donner la tranche que l'on veut à la personne de notre choix. Ces deux livres, Job et Ecclésiaste, semblent dire l'opposé du livre des Proverbes. Nous sommes d'accord pour dire que la vie est bien trop complexe pour se limiter aux simples formules que Salomon va donner dans le livre des Proverbes. Et on a besoin de lire et de comprendre ensemble ces trois livres de sagesse et d'avoir un équilibre de notre lecture de ces livres pour que nous puissions apprécier chaque situation dans notre vie et dans la vie des autres aussi. Et si la crainte de Dieu et la sagesse étaient les deux premières clés, c'est l'équilibre entre ces trois livres de sagesse qui est cette troisième clé, qui nous permet d'avoir un juste regard sur les choses et non pas un regard de pharisien. D'une façon générale, les proverbes nous proposent de joindre la crainte de Dieu et la sagesse dans notre vie pour qu'elle soit belle sous le regard de Dieu. Et si on se retourne en arrière, on regarde derrière nous, on peut dire, mais Seigneur, ma vie est belle. Oui, j'ai eu du chagrin, mais ma vie est belle. Mais on va faire un dernier pas aujourd'hui. Ce dernier pas, ce serait se dire, mais finalement, est-ce que ça a changé quelque chose avec l'arrivée de Jésus ? Ou est-ce que ce livre des Proverbes se suffit à lui-même, tant pour les Juifs que pour les chrétiens ? Eh bien, en 1 Corinthiens 1, 30, Paul déclare ceci. C'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse. Ça veut dire que Jésus, pour nous, a été fait sagesse. Et ce nouvel élément, cette quatrième clé, pour être sage devant Dieu, pour lire correctement le livre des Proverbes, c'est premièrement la crainte de Dieu, deuxièmement la sagesse, c'est-à-dire le bon sens. Troisièmement, c'est l'équilibre dans notre regard. Et enfin, c'est savoir reçu Jésus dans sa vie, avoir reçu cette sagesse dans notre vie. Déjà, dans son enfance, et vous avez déjà le verset au tableau, il est dit que Jésus était rempli de sagesse. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et on ne peut pas lire le livre des Proverbes qu'avec notre sagesse humaine. Il nous faut plus, il nous faut la sagesse de Dieu. Et justement, Salomon, d'une façon prophétique, quand il va enseigner à son fils ses leçons sur la sagesse, au chapitre 8 et 9, va parler d'une sagesse qui est personnifiée, qui est une personne. Et on comprend dans la lecture de ces deux chapitres, avec les yeux du Nouveau Testament que cette sagesse personnifiée, c'est Jésus. Je vous prends par exemple ce verset qui est le verset 8-25. « J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre », nous dira cette sagesse personnifiée. Et on ne peut pas s'empêcher de considérer que cette sagesse, ben, elle n'est pas humaine, puisqu'elle était avant la création du monde. Elle ne peut être que céleste, elle ne peut être que divine. C'est Jésus. Jésus qui fait la différence dans notre recherche de sagesse. Et vous pouvez lire le livre des Proverbes toute votre vie. Vous ne comprendrez pas la pensée de Dieu si Jésus n'est pas celui qui, avec sa sagesse, vous ouvre les yeux sur ses vérités. Pour lire le livre des Proverbes, il faut posséder la sagesse d'en haut. Et Jacques en parle justement. On parlait de Jacques avant avec le miroir qui est ce livre des Proverbes. Eh bien, Jacques, c'est le penchant du livre des Proverbes dans le Nouveau Testament. C'est le livre où on parle le plus de sagesse. Et pour vivre dans cette sagesse, eh bien, j'aimerais vous encourager vraiment ce matin, et ça sera petit à petit ma conclusion, à utiliser ces quatre clés qui vous permettront de pouvoir vivre selon les règles de Dieu, c'est-à-dire la crainte de l'Éternel. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai ces quatre clés, est-ce que j'ai encore la crainte de l'Éternel dans ma vie chrétienne, ou est-ce que je le considère plus du tout comme étant un Dieu puissant? Est-ce que j'ai, et ça j'espère qu'on l'a tous aussi, cette sagesse humaine qui est remplie de bon sens? Et le livre des Proverbes est rempli de bon sens. Mais enfin, aussi cet équilibre entre les généralités des Proverbes et les exceptions de Job et l'Ecclésiaste, pour que notre regard soit juste quand on nous regarde nous-mêmes ou quand on regarde quelqu'un d'autre. Et enfin, avoir Jésus, sagesse d'en haut, qui nous communique par son esprit ce que nous devons faire et ce que nous ne devons plus faire. Et en entrant dans ce plan de Dieu, dans ces quatre clés, eh bien, nous pouvons enfin alors pouvoir vivre cette sagesse au quotidien et vivre ce que Jacques nous propose dans Jacques 3, 17, qu'on va lire. La sagesse d'en haut, j'ai rajouté, ça c'est pas dans la Bible, c'est moi pour qu'on puisse bien comprendre. Donc ne me faites pas rajouter quelque chose à la Bible que je ne voudrais pas. La sagesse d'en haut, qui vient en moi au travers de Jésus, c'est le contexte de Jacques, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde ou de bons fruits et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Vraiment, c'est ce que je nous souhaite, que chacun de nous, nous soyons purs, pacifiques, modérés, conciliants, pleins de miséricorde et de bons fruits, exempts de duplicité et d'hypocrisie. Et j'aimerais pas terminer cette prédication sans vous laisser mon proverbe préféré. C'est un petit peu ma prérogative. Voilà, je suis là, je vais vous dire mon proverbe préféré. Se trouve dans Proverbe 23-26 qui dit ceci. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Et que ce verset puisse être un encouragement à mener notre vie avec sagesse comme disciples de Jésus.